Concert ce dimanche à 15h dans l'auditorium de l'Opéra de Dijon avec l'ensemble Café Zimmermann. On est en duplex avec Céline Frisch et on serait tenté de vous dire bon anniversaire.
Oui, en effet. L'ensemble fête cette année ses 20 ans.
Créé en 1999, la question peut sembler basique, mais tout de même, pourquoi Café Zimmermann ? Et là, vous nous ramenez à l'époque de Jean-Sébastien Bach.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que ce nom de prime abord peut ne pas évoquer la musique baroque. Mais donc, il s'agissait à l'époque d'un établissement où l'on pouvait boire du café. Monsieur Zimmermann était un importateur de café dans la ville très commerçante et riche de Leipzig. Et il accueillait tous les vendredis après-midi des concerts dans son établissement. Et ces concerts ont été dirigés pendant plusieurs années par Jean-Sébastien Bach, également par Telemann. C'était une réunion de musiciens et d'amateurs de café. Et pas que, et de musique.
Quand on évoque la création de votre ensemble, on parle parfois de nouvelles vagues. Alors, qu'aviez-vous envie d'amener dans la pratique des musiciens baroques de l'époque?
Alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment de vagues nous concernant. La vague est plutôt venue plus tôt, on dirait dans les années peut-être 70. À vrai dire, c'est un mouvement un petit peu continu depuis la mort de Bach, mais qui a été très 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 discret dans un premier temps, qui s'est amplifié au cours du XXe siècle. Donc avec la découverte de la musique de Rameau, de Couperin, on a commencé à se réintéresser à ces instruments qu'on ne fabriquait plus, qu'on ne connaissait plus. Donc, qui était le clavecin, la viole de gambe, et tous les instruments qu'on connaît aujourd'hui de l'orchestre moderne, mais dans leur forme antérieure, on va dire. Et tout au long du XXe siècle, cette recherche, cette redécouverte s'est amplifiée jusqu'aux années 1970 environ, où là, il y a eu vraiment un boom. Là, on peut en effet parler d'une vague, avec la redécouverte par le grand public de ce répertoire, dans les années 70-80, avec William Christie, Les Arts Florissants, avec Musica Antica Köln de Reinhard Goebel, avec voilà quelques ensembles emblématiques.
Ou en France, des gens comme Jean-Claude Malgoire, par exemple.
Jean-Claude Malgoire, absolument, tout à fait. Donc voilà, ce qui ont fait de nouveau sonner cette musique d'une façon finalement complètement nouvelle, parce que les quelques pans de ce répertoire qu'on jouait encore, on les jouait avec l'instrumentarium issu du 19e siècle, avec des masses sonores beaucoup plus importantes et avec toute une pratique issu de la tradition romantique et pas cherchant à retrouver quelque part, à replacer la musique dans son contexte du XVIIIe siècle.
On jouait Bach avec de gros orchestres symphoniques.
Exactement. Et donc nous sommes arrivés, on va dire, après la vague, mais quand même avec notre petite pierre ou notre petite goutte, on va dire, dans tout ça, avec une pratique. Alors, on va dire qu'on est la troisième, quatrième génération de ce qu'on a appelé les baroqueux, donc tout ce mouvement qui a redécouvert ce répertoire et surtout une façon différente de l'aborder, qui donc cherchait à s'informer sur ce qui se passait à l'époque. On a bénéficié de toute la recherche de des premiers pionniers de cette redécouverte de la musique baroque, qui pour autant étaient d'excellents musiciens. Je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas le cas.
On est quand même en un temps où on avait finalement la musique contemporaine, vous l'avez dit, la musique classique, alors les Bach, Beethoven, Mozart et j'en passe, et puis la musique ancienne.
Voilà, dans les années 70, il fallait marquer vraiment le coup, on parlait de façon authentique de jouer la musique. Aujourd'hui, plus modestement, on parle d'une pratique historiquement informée. Alors ça sonne très compliqué, mais au final, on fait de la musique. Mais on essaye quand même effectivement d'avoir cette démarche de se renseigner sur l'instrumentarium, de reconstruire des instruments, ou de se rapprocher de ce qui était vraiment la pratique. Et il y a une énorme recherche musicologique qui a été faite, qui n'arrête pas d'être faite depuis un siècle sur toutes ces pratiques. Et cette démarche s'applique de plus en plus tard dans le répertoire. Donc, vous parliez du répertoire classique. Mais en fait, il y a aujourd'hui des ensembles, je pense par exemple à l'orchestre Les Siècles, qui va jouer aussi la musique de Stravinsky, là. Donc, on est au début du XXe siècle, avec l'instrumentarium d'époque, ou qui va jouer Berlioz, qui est en plein XIXe siècle, avec aussi les instruments de l'époque de l'orchestre de Berlioz, et qui nous font entendre des sonorités inouïes dans un répertoire qu'on pense aussi bien connaître, ou dont la tradition n'a pas été rompue pour le coup.
Donc la création du Café Zimmermann en 99, avec quelqu'un dont il faut donner le nom tout de même, c'est Pablo Valetti, violoniste, votre partenaire, votre co-créateur, c'était plus dans une continuité qu'une réaction.
Oui, je dirais, disons que nous avons étudié vraiment déjà ce répertoire au cœur d'un lieu, donc à la Scola Cantorum de Bâle, qui est à la fois un lieu de recherche et un lieu d'enseignement. Donc on était plongés dans cette démarche déjà, et nos professeurs étaient déjà dans cette démarche. On n'a rien inventé, on n'a pas un manifeste, on va dire. Simplement, c'est en travaillant la musique que finalement notre identité est née. En fait, c'est vraiment dans notre travail, dans notre confrontation de musiciens. On a choisi et réuni autour de nous une équipe de musiciens qu'on admirait, qu'on aimait, qui étaient issus de lieux très divers dans le monde. Voilà, si je fais une rapide géographie de l'ensemble, on a l'Argentine, le Canada, la République tchèque, l'Italie, la France. On a réuni ces personnes parce qu'on avait envie de faire de la musique avec ces personnes, et d'une certaine façon aussi.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de fidélité tout de même avec justement les musiciens qui vous accompagnent au-delà du duo de base?
Ah oui, complètement. Oui, complètement. Bah, c'est une grande source de fierté, finalement, au bout de 20 ans, de voir qu'on a... Voilà, on a créé un son qui, je crois, est assez reconnaissable. Enfin, un son et une façon commune de prononcer cette langue musicale baroque, héritée largement donc du travail de nos prédécesseurs, mais en même temps à laquelle on a apporté notre personnalité musicale, tout simplement.
Vous allez au-delà de la démarche de restaurateur, hein. Vous allez au-delà de ça.
Effectivement, concernant le répertoire baroque, le rapport à la notation est très différent de ce qu'il va devenir plus tard, où les compositeurs, de plus en plus, vont préciser dans les partitions de façon très exacte leurs souhaits. À cette époque-là, la pratique, la notation est, on va dire, plutôt une scénographie. Enfin, j'exagère un petit peu, mais disons que par exemple, tout ce qui regarde mon rôle au clavier, par exemple, la basse continue, on a une ligne de basse avec des chiffres, ou pas de chiffres d'ailleurs, et on doit inventer une partie qui est la façon d'accompagner selon les pratiques de l'époque. Et on a des tonnes et des tonnes de papiers qui nous disent comment le faire. Pareil pour la pratique de l'ornementation, on a des lignes très simples indiquées dans les violons. Et on connaît, on a des documents, on a aussi des exemples de la façon dont il faut orner, l'inspiration de la danse, les tempi. On n'avait pas forcément des tempi métronomiques, on n'avait pas forcément. Il y a plein d'informations, plein de recherches, plein de choses qu'il faut connaître, en effet. Mais après, à partir de la partition, on a quelque chose de vivant. Parce que c'est vrai que la partition, si elle n'est pas jouée, c'est un morceau de papier. Ça ne donne rien si elle ne résonne pas.
Céline Frisch, vous venez terminer votre série de concerts anniversaire, 20e anniversaire à l'Opéra de Dijon, à l'Auditorium, ce dimanche à 15h, un programme Jean-Sébastien Bach. Ça me donne envie de vous demander, qui est Bach pour vous?
Effectivement, déjà avec le choix du nom de cet ensemble, on a une référence forte à ce musicien, parce que donc c'est un lieu où évidemment il faisait de la musique de façon hebdomadaire, dans un cadre qui était autre que celui de la cour ou celui de l'église, où il a pu travailler par ailleurs. Donc là, on peut effectivement imaginer un espace de liberté ou de jeu un peu différent. Il a dû s'y produire avec ses enfants, il a dû s'y produire avec les musiciens qui venaient le rencontrer. Donc, on a parlé de nous dans une critique il y a quelques années d'une ambiance de bœuf baroque.
On peut s'amuser à jouer Bach ?
Ah oui, beaucoup. Mais c'est une musique d'une extrême richesse à tout point de vue. Enfin, en tout cas, déjà personnellement, moi, c'est la musique qui me parle le plus. Pour moi, en tant que musicienne, ça va pas être très élégant, mais pour moi, c'est l'aliment complet, on va dire. Et non, blague à part, ça a été vraiment le centre de gravité de notre activité musicale au début de l'ensemble. Et à partir de là, et en parallèle, on s'est ouvert à d'autres répertoires, donc la musique italienne, la musique de ses précurseurs, de ses contemporains. Donc, on va dire, c'est plus un centre de gravité de notre activité musicale.
ce dimanche, c'est donc Bacarco, pourra-t-on entendre, et avec donc des musiciens qui étaient déjà avec vous en 99.
Ah, une bonne partie, oui, tout à fait. Donc on entendra, on a essayé de faire un programme festif, donc une des collections, enfin un des recueils les plus joyeux de la musique de Jean-Sébastien Bach, ce sont les concertos brandebourgeois, dont on va jouer deux concertos, donc le second et le quatrième. Ensuite, deux suites pour orchestre, qui sont aussi des compositions assez festives, et le concerto pour deux violons et orchestre en ré mineur. Nous serons donc, je crois, 21 musiciens.
Pour donc un 20e anniversaire, ce dimanche à Dijon, à l'Opéra de Dijon, à l'Auditorium, c'est à 15h. Plus d'informations. Alors, vous avez un site cafezimmermann.com pour mieux connaître peut-être l'ensemble. L'Opéra de Dijon, bien sûr, opéra.dijon.fr ou un numéro de téléphone, information, réservation, ce que vous voulez, 03 80 48 82 82.